Et c'est le temps de notre chronique de psychologie sociale. Nous recevons Roxane Sablonnière, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et puis, elle a plusieurs titres intéressants, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour Roxane, comment ça va?
Ça va très bien, vous aussi?
Oui, ça va très, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler, si j'ai bien compris, de l'espoir. Qu'est-ce qui a inspiré le sujet là, que tu abordes avec nous aujourd'hui?
Oui, bien, j'ai préparé cette chronique avec une de mes étudiantes, Camille Dumas. Mm-hmm. Puis elle m'a proposé un livre là, à lire qui s'intitule « Espoir » avec un S, donc un recueil de 4 textes. Qui est composé, qui a été écrit par les auteurs Nicole Bordelot, Serge Marquis, Christine Michaud et Marc Pistorio. Puis ces écrits amalgament la psychologie, la neuroscience, la philosophie, la spiritualité. L'objectif, c'est de nous aider individuellement, collectivement à cultiver l'espoir, qui est un ingrédient essentiel souvent au bien-être. Donc, j'ai pensé que dans ces moments plus incertains, parfois, dans la société dans laquelle on vit, bien, ça peut être plus difficile de retrouver espoir. Et puis, ça m'a rappelé que c'était un sujet qui était étudié scientifiquement. Mmh. J'avais le goût de m'y replonger, puis d'en discuter avec vous aujourd'hui.
Bien, c'est une bonne idée de parler de l'espoir, je trouve. Surtout après la dernière entrevue qu'on a eue où on parlait justement de peut-être de désespoir avec... Ben, c'est l'étude de la Fédération autonome de l'enseignement là, qui révèle mm-hmm. la montée de la misogynie puis de l'homophobie oui. puis tout plein de choses mm-hmm. à l'école. Alors, justement, pourrions-nous d'emblée débuter avec une compréhension commune sur ce sujet? C'est quoi l'espoir?
Ben, l'espoir, c'est un sujet, comme je disais, qui a été étudié scientifiquement, mais c'est aussi un sujet qui a évolué. Puis, il n'y a pas nécessairement de consensus. Le point de départ, c'est parti de la psychologie qui relève des processus cognitifs avec un chercheur qui s'appelle Charles Snyder, de l'Université du Kansas, qui était très influent dans ce domaine. Il a travaillé principalement sur la conceptualisation, la définition pendant de l'espoir, pendant plus de 2 décennies. Donc, il essaie de faire progresser notre compréhension de ce sujet. Il définit l'espoir comme un état motivationnel. Ça provient de 3 facteurs, 3 éléments importants. D'abord, les objectifs, le parcours et la capacité d'agir intentionnellement. Donc, le premier élément, c'est les objectifs. Donc, c'est des objectifs qu'un individu peut se donner, comme des images visuelles, des descriptions mentales. C'est une genre de séquence d'action à suivre. Par exemple, si vous vous imaginez en train de courir un demi-marathon, ben vous allez projeter vos entraînements à faire pour pouvoir arriver à votre objectif. Le deuxième élément, c'est le parcours. Donc ça intègre vraiment la notion de temporalité, donc toute la notion du temps là-dedans. Donc c'est quoi? Quels sont les points, les étapes pour partir du point A pour vous rendre au point B? Donc si vous faites par exemple un plan d'entraînement, vous devez préparer ou prévoir certaines séquences dans le temps, donc à la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Et puis, il y a des obstacles qui peuvent arriver, puis ça nous aide, quand on a un parcours qui est plus clair, de prévenir ces obstacles, comme si, par exemple, vous tombez malade, que ça vous empêche de vous entraîner pendant 2-3 semaines, bien, avec de l'espoir, vous allez peut-être trouver une façon alternative de vous remettre sur pied pour aller vers votre objectif. Finalement, le troisième élément, c'est la capacité d'agir. Donc, c'est quelque chose qui est intentionnel, puis ça représente l'énergie qui est nécessaire pour poursuivre ce fameux parcours à travers chacune des étapes. Donc, par exemple, si vous tombez malade, bien, ça demande beaucoup de flexibilité pour modifier votre plan d'entraînement assez rapidement et puis pour pouvoir atteindre vos objectifs qui étaient prévus au départ. Cette conceptualisation, cette définition de l'espoir, c'était très dominant dans le milieu occidental. Ça appuie d'une certaine façon le mythe américain de l'individualisme, puis qui voit, qui conçoit l'humain, dans le fond, comme... Donc, on valorise l'individu avant le collectif. C'est comme si l'espoir, c'était dans une optique que l'on peut contrôler, que chacun d'entre nous peut contrôler. Ce qui manquait dans cette définition, c'était que parfois, notre environnement, ce qui nous entoure, ben, on manque un peu de contrôle là-dessus, ce que vous évoquiez plus tôt, par exemple. Mm-hmm. Donc, s'il y a une catastrophe naturelle, il y a des changements politiques importants, et là, on peut se perdre là-dedans. Et puis, la notion d'émotion, elle est aussi évacuée dans cette définition-là, mais qui est revenue tranquillement avec un autre chercheur qui s'appelle Schioli, qui a proposé, lui, quatre domaines à l'espoir. Si vous voulez, je peux vous parler de ces quatre domaines-là.
Oui, allons-y, justement. Oui, cette approche-là de Schioli, oui, allons-y.
C'est ça, il y a l'attachement, il y a la survie, la maîtrise et la spiritualité. Donc, l'attachement, c'est la confiance et l'ouverture qu'on a. C'est pas quelque chose qui est prédisposé chez l'humain quand on est. C'est quelque chose qu'on apprend avec nos parents, notre entourage. Donc, on sent qu'on est entouré et en confiance, qu'on peut s'appuyer sur les gens qui nous entourent, bien, il y a un certain attachement qui se fait dans nos relations, une certaine réciprocité aussi, puis ça ouvre la porte à plus d'espoir parce que s'il y a quelque chose de difficile qui se produit, bien, il y a des possibilités relationnelles, donc du soutien qui est possible.
Okay.
Le deuxième élément, c'est la survie. C'est lié au premier. Donc, on apprend à être confiant dans un monde où on est entouré, puis on peut mieux survivre quand il y a des proches autour de nous qui nous aident à faire ça. Une image qu'on peut avoir, c'est si on est toujours seul, bien, ça peut être plus difficile, par exemple, d'avoir espoir ou de continuer dans la vie, parce que quand on est dans un système où on vit bien, bien notre bien-être est reconnu par le collectif aussi, donc on n'est pas seul. Cette survie prend donc racine dans la croyance qu'il y a un univers qui est bienveillant et qui est alimenté par des actes de sollicitude autour de nous. La troisième composante, c'est la maîtrise. Ça sous-tend une détermination, c'est comme un guide, une direction. C'est vraiment de se sentir en contrôle de soi, même s'il y a des forces externes qui nous fragilisent ou qui nous déstabilisent. Par exemple, si vous courez votre fameux marathon puis qu'il y a une forte pluie ou de la grêle, ben même si vous êtes bien, si vous vous êtes bien entraîné, vous allez quand même sentir que vous êtes en confiance malgré cet obstacle, puis vous allez continuer. Vous allez peut-être même revoir votre objectif pendant la course. Et finalement, la dernière composante, qui est la spiritualité, c'est pas nécessairement la religion, ça n'a pas nécessairement un fondement religieux, c'est plutôt un système de valeurs qui nous guide. Donc, si une personne, par exemple, valorise l'inclusion, vous parliez tantôt de misogynie, tout ça, donc si quelqu'un valorise l'inclusion, ben elle va plus se diriger vers des situations où elle va incarner ce système de valeurs-là. Elle pourrait, par exemple, protéger une collègue qui est rejetée par les autres. Et puis, c'est pour ça que c'est relié à la survie et à l'attachement, parce que ça nous lie, d'une certaine façon, aux autres qui nous entourent.
Bon, maintenant, on a déconstruit ce fameux concept de l'espoir, là, que certains pourraient tout de même... Tu pourrais encore dire que c'est une croyance que l'espoir relève comme de la pensée magique. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Bien, c'est vrai qu'on entend souvent ça, mais ça provient d'une fausse croyance. Le monde scientifique est quand même assez fort sur le fait que les gens qui ont de l'espoir, beaucoup d'espoir, bien, sont quand même plus heureux. Ça fonctionne mieux pour eux. Donc, c'est pas un désir qui est aveugle. C'est vraiment lié à notre pouvoir d'agir. Puis, ce pouvoir d'agir-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on surestime nos probabilités ou nos chances de réussir, mais c'est dans nos actions, nos façons d'agir et surtout de mettre l'accent sur les possibilités qu'on peut avoir dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes. Mmh. Donc, ça nous permet, entre autres, de reconnaître qu'on a une influence sur le résultat. Donc, c'est pas un espace, ça ouvre un espace plutôt dans lequel il y a quelque chose de positif qui peut arriver. Ça nous lie directement au monde extérieur et aux autres aussi. Puis, si vous me permettez, oui. J'aimerais ça terminer avec... avec mon auteur préféré de toute ma vie, là, c'est Dostoïevski, un auteur russe que j'aime beaucoup et qui a écrit « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre ».
Ah ben ça, c'est la conclusion vraiment appropriée à cette chronique. Moi, j'allais parler aussi, j'ai l'impression qu'un peu que l'espoir et la résilience, ça se rejoint.
Oui, tout à fait. C'est les deux concepts ont lié. La résilience est un concept peut-être un petit peu plus large que l'espoir. C'est comme, ça peut être même lié. Souvent, ça peut être comme du bien-être, tout ça. Donc oui, c'est très, très lié, les deux concepts, en effet.
Bon, on va pas cesser d'avoir de l'espoir, puis c'est pas un concept cheap, c'est un vrai concept, c'est une vraie chose. Bien, merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.